Radio PGDG.
Le son de ton lycée.
Bonjour à tous, ici Radio TV PGDG, en direct avec Ilona No et Marine Langlois, deux professionnelles du milieu marin. Elles évoqueront l'exploitation des ressources maritimes, ou plus précisément, la pêche baleinière.
Oui, donc en effet, l'industrialisation des baleines se développe notamment sur les territoires japonais, en raison d'apports considérables de nourriture, mais pas seulement.
Effectivement, la pêche à la baleine prend partie dans la culture japonaise. Elle génère des apports importants de matières grasses, utilisées par exemple dans les produits cosmétiques ou même dans la mécanique.
Impressionnant, n'est-ce pas? Restez bien connectés, chers auditeurs, jusqu'à la fin de cette interview. La question du jour aura lieu. Il vous suffira d'envoyer un ou deux au 54040, avec à la clé 5000 euros. Vous avez bien entendu, 5000 euros. Alors on se retrouve dans un instant pour la suite de l'interview. De retour sur Radio TV PGDG, en direct, accompagnée d'Ilona No et Marine Langlois, nos deux professionnels du milieu marin. Donc si j'ai bien compris, la pêche baleinière est une activité qui se développe énormément, tellement qu'on parle d'exploitation de ressources. Mais alors, est-ce qu'elle a toujours existé ?
En réalité, pas vraiment. La consommation de viande de baleine était très populaire dans un Japon dévasté à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Elle n'est plus aujourd'hui qu'une tradition perpétuée par une population âgée.
N'oublions pas qu'en 1982, un moratoire a été voté par la Commission baleinière internationale, aussi appelée CBI, afin d'interdire toute chasse à la baleine.
Mais est-ce que cette interdiction a réellement été respectée ?
Réellement, non. La pêche n'a jamais vraiment cessé. La CBI l'a tolérée toujours uniquement pour usage scientifique.
Je suppose donc qu'elle a eu un fort impact sur le milieu marin. Je me trompe ?
C'est tout à fait vrai. Les baleines sont une ressource tellement exploitée que certaines espèces sont en voie de disparition. Pour donner un ordre d'idée, après 1910, environ, si je me souviens bien, 10 000 baleines sont tuées par mois. Et, dans les années 30, jusqu'à 50 000.
C'est incroyable! Mais vous avez parlé des années 1910-1930. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut constater une évolution par rapport à la perte de ces poissons?
Donc le Japon s'est retiré de la CBI et a donc pu reprendre le commerce des baleines, mais uniquement dans son territoire. On peut parler d'évolution dans le sens où l'Antarctique, endroit où les cétacés se reproduisent le plus, n'est donc plus exploité par les Japonais.
Mais les baleines sont des ressources marines, au même titre que les poissons, qui peuvent être partiellement prélevées tout en respectant des quotas afin de ne pas nuire à la survie de l'espèce.
Merci beaucoup mesdames pour cette interview aussi enrichissante qu'intéressante. Chers auditeurs, à vous de jouer pour tenter de remporter 5000 euros en répondant correctement à la question suivante. Le terme CBI signifie 1. Commission baleinière internationale ou 2. Commande de baleine instantanée. Merci à tous pour votre écoute et à demain pour un nouvel interview sur Radio TV PGDG.
Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler des déchets de la décharge de Saint-Domingue, en République dominicaine. Nous avons avec nous une spécialiste.
Bonjour à tous, je suis Noémie, je travaille en tant qu'ingénieure dans la gestion des déchets.
Pourquoi avons-nous autant de déchets dans la décharge de Saint-Domingue ?
C'est une très bonne question. En effet, l'île connaît une forte croissance économique grâce à l'essor du tourisme qui est devenu la principale activité économique. Les touristes rejettent donc des tonnes de déchets, puis il n'y a aucune infrastructure prévue pour traiter et recycler ces déchets domestiques et industriels.
Mais puisqu'il n'y a aucune infrastructure pour ces déchets, où sont-ils stockés ? Et quels problèmes cela engendre-t-il ?
Les ordures sont donc stockées en plein air, ce qui engendre la propagation de maladies, odeurs nauséabondes, émanations de gaz toxiques, dégradation du paysage, pollution du sol par les infiltrations et de l'air par les fumées dans des déchets incinérés. Un point positif, les décharges sont exploitées par les plus pauvres qui trient et récupèrent les déchets.
En parlant des déchets incinérés, est-ce que tous les pays emploient cette méthode ?
Cela dépend des pays. Il y a des pays qui envoient leurs déchets dans d'autres pays moins développés. En Inde, par exemple, tous les ans, plus d'un million de tonnes de déchets toxiques en provenance des pays riches sont recyclés. Mais ce recyclage est devenu un véritable marché économique. Les importateurs indiens recyclent ces produits pour en extraire des métaux lourds qu'ils revendent à la petite industrie.
Ces activités ne sont-elles pas dangereuses pour la santé ?
Si, ces activités sont très cancérigènes. Les risques sanitaires sont énormes. Contamination de l'eau par le mercure et l'arsenic, risques liés à l'amiante. Ces risques sont donc particulièrement élevés dans les bidonvilles situés à proximité des décharges. Actuellement, 5 millions de personnes, dont 4 millions d'enfants de moins de 5 ans, meurent chaque année de maladies liées aux déchets. Les effets sur la santé et l'environnement prennent la forme d'une contamination de l'eau, de la terre et de l'air sur une superficie étendue.
Y a-t-il une solution pour lutter contre la prolifération des déchets ?
La croissance de la consommation, l'industrialisation et l'urbanisation s'accompagnent d'une augmentation démesurée de la production de déchets domestiques. La seule solution durable est la réduction drastique de la production des déchets et le développement de produits propres, c'est-à-dire recyclables.
Est-ce facile à appliquer ?
Bien sûr que non. Les coûts élevés sont dissuasifs. Les populations refusent le voisinage de sites de traitement. Avec le renforcement de la réglementation, s'est développé un trafic de déchets toxiques des pays industriels vers le sud, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Des progrès sont-ils constatés malgré tout ?
Oui, grâce à des campagnes d'information sur le tri sélectif, mais le recyclage minime est toujours minime par rapport aux déchets produits.
Comment font les pays nordiques qui, eux, sont en avance ?
Dans les pays nordiques qui ont toujours été en avance sur cette question, le tri sélectif est remis en cause et les pouvoirs publics, lui, préfèrent de plus en plus l'incinération qui permet dans le même temps de produire du chauffage.
Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairés. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.
Bonjour à tous sur Radio TV PGDG. On accueille deux étudiantes, Manon et Ilana, qui vont nous faire part de leur exposé sur la déforestation. Les filles, présentez-vous.
Bonjour, je m'appelle Ilana Sova. Depuis toute petite, je m'intéresse à l'écologie. Aujourd'hui, je vais vous parler de déforestation, mais nous aborderons également les espèces menacées par ce phénomène.
Bonjour, je m'appelle Manon Ruel et comme dit précédemment, je suis une étudiante dans le lycée Pierre-Gilles de Gênes. Il y a 2 mois, je suis partie en vacances dans la forêt tropicale en Amérique. Je vais vous raconter mon expérience.
Alors Manon, qu'as-tu appris durant ce voyage ?
J'ai vécu dans une tribu, ils m'ont expliqué la façon dont la biodiversité a changé en quelques années et la raréfaction de certaines espèces animales mais aussi végétales.
En effet, autrefois les forêts tropicales représentaient 14% de la surface de la Terre, désormais elles n'occupent plus que 6%. À ce rythme, dans 100 ans, il n'y aura plus aucune forêt. Les espèces ont aussi diminué, 40% de celles-ci ont disparu en 40 ans. Comme le crapaud doré, le trichoptère, la ninoxrieuse, l'aigle géant et plein d'autres. Je laisse la parole à Manon.
Les habitants m'ont aussi expliqué les conséquences de la déforestation. Cela a entraîné de nombreuses maladies infectieuses ainsi qu'une augmentation des catastrophes naturelles comme des coulées de boue et des inondations.
Bon, je crois que nous avons toutes les réponses à nos questions. J'espère que ça a pu vous informer sur la situation actuelle et que vous prendrez conscience qu'il faut agir rapidement. Bonne journée sur Radio TV PGDG.
Bienvenue à tous et à toutes sur la radio PGDG. Je me présente Jason Dupin et je serai votre présentateur pour cette séance. J'espère que vous allez tous bien parce qu'aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet très à la mode ces derniers temps. Oui, nous allons parler du climat. Je vous prie de bien vouloir accueillir nos invités Thomas Thierry, David Bellido et Célina Bourneron.
Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Nous sommes un binôme composé de Célina et moi, une camarade de classe. Nous travaillons ensemble depuis un certain temps. Notre sujet principal est le climat dans le monde.
Est-ce que vous pouvez me parler de votre photo ?
Le lieu de la photo est l'Argentine. J'ai voulu prendre cette photo parce que peut-être que dans 50 ans, ce glacier n'existera plus. Et grâce à cette photo, on peut constater une évolution du réchauffement climatique.
En effet, peut-être que dans 50 ans, il n'y aura plus de glaciers à cause du réchauffement climatique qui touche le monde entier. Celui-ci peut entraîner la fonte des glaces, des inondations, création d'ouragans et de cyclones, ou encore la disparition de la barrière de corail.
Merci beaucoup pour toutes ces infos. À présent, je vais laisser la parole à David Bellido.
Pour compléter les infos de Thomas, je vais vous parler de la COP21, lancée le 12 décembre 2015. C'est une réunion qui a rassemblé plus de 195 pays à Paris, et qui avait pour but de ne pas franchir la barre des 2 degrés d'augmentation de la température d'ici 2100, en faisant des lois pour moins polluer. Mais certains pays, comme les États-Unis, quittent la COP21, car il n'y a aucun document signé. Mais pour régler ça, il se déroule des réunions tous les 5 ans, comme cette année 2020, le 9 novembre, à Glasgow.
Merci beaucoup, David, pour toutes ces infos. À présent, notre émission touche à sa fin. Et je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. Au revoir.
Bienvenue sur Radio TV PGDG. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir Adrien et Chloé. Ils vont nous parler de l'horrible incident qui a eu lieu dans le Massif des Morts. Bonjour à vous.
Bonjour à tous, je m'appelle Adrien, je suis pompier de Paris depuis maintenant 8 ans. Je viens témoigner du terrible incendie pour lequel je suis intervenu dans le massif des Morts cet été.
Bonjour à tous, je m'appelle Chloé et je suis l'une des victimes du feu survenu dans le massif des Morts.
Nous allons commencer avec vous Adrien, j'ai quelques questions pour vous. Quand êtes-vous intervenu ?
Alors j'ai été réquisitionné du 17 au 28 juillet dans le massif des Morts pour l'incendie.
Et pouvez-vous nous dire quelle proportion a pris l'incendie ?
Alors ça a été un feu très très grave, hein. Il a ravagé près de 17 000 hectares.
Waouh ! Quelles sont les causes de cet incendie ?
Alors principalement, il est principalement dû à la canicule de cet été, mais il y a aussi eu des actes de pyromanie.
D'accord, et connaissez-vous l'identité des pyromanes ?
Pour l'instant non, il y a une enquête qui est en cours, mais c'est assez tôt pour pouvoir établir une liste de suspects, mais on trouvera sans doute les coupables.
D'accord, et j'ai une dernière question pour vous. Quels sont les relevés au niveau des victimes ?
Oui, effectivement, nous comptons 10 morts, dont 3 pompiers qui se sont fait encercler par les flammes. On a de nombreux habitats et des campings qui ont dû être évacués et protégés des flammes.
D'accord, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je vais maintenant passer à Chloé. Et vous, Chloé, pouvez-vous nous parler de votre expérience ?
Oui, alors je m'étais endormie. Je logeais dans le camping pour des vacances, quand soudain j'ai senti une odeur de brûlé dans toute ma chambre. Je me suis donc levée et lorsque j'ai ouvert la porte, il y avait des flammes de partout. Je me suis allongée par terre pour mieux respirer et j'ai rampé jusqu'à la sortie où j'ai vu des pompiers qui m'ont ensuite pris en charge.
D'accord. En tout cas, je vous remercie tous les deux d'avoir répondu à mes questions. Tout d'abord à vous, Adrien. Et vous, Chloé, j'espère que vous allez bientôt vous rétablir.
Merci, au revoir.
Merci, c'est avec plaisir, au revoir.
Merci à vous aussi, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine interview.
Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler avec Manon de la fonte des glaces, qui est en ce moment au cœur de nos préoccupations. Depuis quelques années, on remarque une fonte accélérée des glaciers de la planète. Peux-tu m'en dire plus à ce propos ?
En effet, depuis quelques temps, la fonte des glaces s'accélère. Mais nous devions aussi nous concentrer sur l'épaisseur de la banquise arctique qui a diminué de 40% depuis les années 60.
Quelle est la cause principale de ces phénomènes ?
La cause principale est le réchauffement climatique dû à l'effet de serre qui est lui-même dû aux combustibles fossiles brûlés par l'homme comme le pétrole, le gaz ou le charbon.
Quels sont les inconvénients et conséquences produits par ces fontes ?
Les fontes produisent de gros inconvénients tels que la hausse du niveau marin qui menace d'inonder les îles basses et certaines plaines comme le delta du Nil, le Bangladesh ou même la Camargue. Mais aussi l'approvisionnement en eau des vallées, la disparition ou encore les immigrations de certaines espèces dont les ours polaires. Quant aux conséquences, la première est le déplacement de certaines espèces qui a eu des conséquences surprenantes comme l'apparition de nouvelles espèces tels que les pislis ou grelards. Ils sont le résultat de l'hybridation entre un ours polaire et un grizzly. Les ours polaires étant forcés d'émigrer se sont retrouvés au Canada et ont rencontré les grizzlies qui, eux, ont pu remonter.
J'ai aussi entendu parler de l'élévation du niveau marin. Qu'as-tu à me dire là-dessus ?
Au siècle dernier, le niveau d'eau est déjà monté de 17 cm. On prévoit pour ce siècle 5 à 10 cm minimum de plus. Cela causerait 824 millions de personnes impactées en 2030.
Waouh, c'est effrayant. Je te remercie. Et quant à vous, chers auditeurs, je vous retrouve demain matin pour parler des espèces en voie de disparition.